Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La Tentation. Production, mise en scène Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. À Lyon 1er, au bas des pentes de la Croix-Rousse, se trouve vers la place Saint-Honnay la rue Bouteille. Petite rue étroite, encore pavée, immeuble vétuste gris. Numéro 5 de cette rue, il y a un immeuble de 2 étages avec un passage sombre où se trouvent les boîtes aux lettres. Ce passage permet de prendre les escaliers de l'immeuble et d'aboutir à une courette avec un petit arbre. Et en face du passage, il y a une autre maison de 1 étage. Des escaliers extérieurs pour mener à la porte de l'allée de cette maison. L'allée aux escaliers de bois. Ça sent la poussière, le vieux. Au rez-de-chaussée se trouve à droite un couple de vieux qui sont là depuis 50 ans et en face un jeune couple. Au premier, à gauche, un jeune homme d'une 20aine d'années et à droite, un homme, c'est Monsieur Alexandre Dubois, 45 ans. L'appartement où il habite n'est pas très grand, c'est un F1. Petit couloir avec une fenêtre qui donne sur la cour. Le couloir mène à la pièce principale qui sert aussi de cuisine parce qu'il en a mis un évier et un chauffe-eau électrique dans un coin. Il y a du lino à terre, couleur grise, une fenêtre qui donne sur la cour et une cheminée condamnée. Au mur, une tapisserie beige à petites fleurs. Les meubles sont éclairocliques. Sans âge et très bon marché. Une table de cuisine en formica, 2 chaises, un buffet en bois peint marron, 2 fauteuils de toile beige, une table basse, un autre petit meuble. Une ouverture donne sur l'autre pièce qui est la chambre. Grand lit à 2 places, une armoire toute simple en bois et une table de nuit. On accède par une porte à la salle d'eau, WC, douche, lavabo. Mais vous connaissez déjà le décor et cette adresse, car je m'en suis souvent servi pour d'autres histoires. Un décor que j'aime bien faire revivre, car il a définitivement disparu avec la maison. La rue aussi a rajeuni. Donc, Voilà un des décors, et peut-être le plus important, mais nous le verrons une fois l'histoire finie. Car on ne sait jamais, des personnages peuvent quelquefois me mener loin. Là, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit le cas, en tout cas. Au fait, où est le personnage? Eh bien, en ce moment, il travaille, et oui, Alexandre est libraire, rue des Chartreux, c'est-à-dire une rue au-dessus. La rue des Chartreux est une rue qui monte raide, et sa librairie se trouve en face d'une école privée Saint. Elle est en bas d'un vieil immeuble de 2 étages, sans âge et délabré. La librairie a été repeinte. Elle est bien tenue. Elle vend surtout des livres d'occasion. Les gens qui lisent peu, ceux qui lisent beaucoup, et comme les livres coûtent cher, ils les achètent la plupart du temps d'occasion. L'intérieur de la boutique, il y fait sombre, mais pas trop, et elle ressemble à une boutique de livres d'occasion. Monsieur Alexandre Dubois a 45 ans, il est grand, mince, visage un peu sec, qui paraît autoritaire, mais en réalité il est plutôt timide. De grands yeux bleus profonds, cheveux châtains, habillé en costume gris, d'une chemise blanche et d'une cravate bordeaux. Quel drôle de rêve j'ai fait. C'était la période des fêtes de fin d'année. J'étais dans un appartement chez une femme. L'appartement était gai, propre, la femme belle, gentille pour moi. Je crois qu'elle devait être une amie. Et puis, il est venu. Je le suivais de partout dans l'appartement. Il n'aimait pas ça. La relation qu'il avait avec la femme était tantôt maîtresse, tantôt mère. Il se plaignait à la femme parce que j'étais toujours près de lui. Elle me défendait et disait de me laisser faire. Il était au lit, avec la femme, à faire l'amour. Et j'étais près de lui. Et puis, j'ai vu nous coucher sur le côté. Il dormait. J'allais la réveiller et n'était pas content de me voir. En bougeant un peu, il m'a montré son intimité, sans faire exprès. Il était couché sur le ventre, un peu de côté, nu, à côté de la femme. Je me suis allongé sur lui et senti son corps. Il s'est plaint à la femme, qui lui a dit que ce n'était pas grave. Puis, il ne voulait pas aller à un déjeuner. La femme lui a dit que c'était Noël, qu'il y avait à avoir des cadeaux, et que, puisqu'il aimait les cadeaux, il fallait qu'il y aille. Elle a fait tourner un petit Père Noël sur un crayonnage, et le rêve a été fini. J'étais heureux d'avoir fait ce rêve. Et je me suis dit que puisqu'il a 18 ans, tout est permis. Non, rien n'est permis, puisque j'ai 45 ans et lui 18. Et puis, de toute façon, il ne se passera jamais rien. Parce que j'ai peur qu'il se passe quelque chose. Mon instinct me dit que si je fais rentrer quelqu'un chez moi, je suis perdu. C'est pour cela que je ne reçois personne ou parle à personne. Je reste seul, en dehors de mes semblables. Si je n'avais pas fait ce rêve, il n'y s'est rien passé. Mais le rêve est là, il me tente, veut me précipiter, me mettre au plus profond. Pourtant, je sais que je ne dois pas me mettre au bout du précipice, car on m'y pousserait. Ma vie est tellement réglée et monotone que j'aimerais qu'il s'y passe quelque chose. J'ai toujours vécu sans le moindre faux pas. Mais cela m'a été facile. Il suffisait que je m'isole et dise non à toutes les invites. Ceci a fait un vide autour de moi. Un vide auquel j'aurais pu me satisfaire. Mais il y a ces rêves et ces désirs cachés. Et puis, ce que je vois de ma fenêtre. Il est 11h30 et comme tous les jours, il va au pas de sa porte, il va voir la sortie du lycée. Les jeunes adolescents, des enfants s'accroupent, se mettent en groupe, rire, crier, courir dans tous les sens. Il aimerait être l'un d'eux, beau, jeune et insouciant. Certains visages, certains corps le troublent. En passant devant la boutique, des jeunes gens, des jeunes filles regardent à l'intérieur ou les livres dans la vitrine. Lorsqu'ils le voient, ils lui font une petite signe ou une grimace. Bien sûr, pour eux, je ne suis qu'un vieux con. J'ai jamais été qu'un vieux con. Quelquefois, la porte s'ouvre et entre un lycéen, le visage rieur, plein de vie, il fait le tour, regarde et voit de vieux albums de BD. Il ouvre les livres, les feuillettes. La plupart du temps, il n'achète pas. S'ils sont deux, il rit en se montrant des images. Lorsqu'ils sont dans le magasin, Alexandre n'ose pas les regarder. Il a peur de les gêner. Et surtout, qu'on le prenne pour un vieux. Puis les jeunes s'en vont. La rue se vide. C'est le calme. Ferme sa boutique entre midi et 15h et va manger dans un petit restaurant au-dessus de la place Satonnet. Après avoir mangé, il va faire des petites courses dans le quartier, entre chez lui pour déposer ce qu'il a acheté et retourne à sa librairie. Il ouvre, c'est l'après-midi que les acheteurs viennent. Ce sont des vieux monsieur pour la plupart, au visage blafard, habillés pauvrement. Alexandre se dit qu'il ne semble pas vivre, triste et timide. Comme moi, des ratés. Pourquoi est-ce que les gens qui aiment les livres ont-ils l'air démodés? Lorsque l'on aime les livres, on n'aime pas la vie, sa vie. Alexandre non plus n'aime pas sa vie. Il aimerait qu'il lui arrive quelque chose enfin qui puisse la bouleverser. Cela fait des années qu'il rêve à un changement de vie. Mais cette monotonie qui l'attriste et lui donne le cafard à chaque réveil le rassure, car il a peur du changement. Il le veut, le souhaite, mais en a peur. Il en a peur que si on lui change une virgule de sa vie, que ça le mène dans des néandres qui réveilleront des choses enfouies au plus profond de son âme et que sa vie risque de basculer là où il ne veut pas, sera plus maître de lui et de devenir dévoilé aux autres et à lui-même ce qu'il est vraiment. C'est cette peur qui lui a fait bâtir une vie pleine d'habitudes qui ne peut laisser de place à l'imprévu. Enfin, c'est ce qu'il croit. Pour dire des choses simplement, il rêve d'imprévu, mais a tout fait pour qu'il n'y en ait pas de place dans sa vie. Il ne sort jamais en vacances, il ne va jamais en vacances. Il fait toujours les mêmes trajets à la même heure, rencontre toujours les mêmes personnes, ne parle à personne de peur de se dévoiler ou que cela le mène trop loin. Il est tellement pris par ses habitudes que lorsqu'il a à faire une chose qui n'est pas prévue, cela le met dans tous ses états. S'il a un rhume ou mal à la tête, il est dans tous ses états parce qu'il est obligé d'aller à la pharmacie ou de se moucher. Cela l'énerve car ça le sort de sa rêverie. En faisant son trajet, il rêve, s'imagine des choses qui pourraient lui arriver. Il peut se le permettre, cela ne risque rien. Il se dit, si j'étais riche, si j'avais un fils, etc., etc., si j'étais jeune et beau. Et les années passent ainsi, dans le rêve et une vie monotone. Un matin, en se rasant, comme tous les matins, on se voit dans la glace. Et ce que l'on voit vous dit que le temps a passé. Vous regardez autour de vous, et vous vous apercevez que vous avez vécu une vie médiocre, triste, à en mourir. Les rêves ne sont plus là pour vous soutenir. Dans la glace, le visage maigre, vieux, un peu ridé, les cheveux parsemés de fils blancs, la barbe qui grisaille et est dure à raser, le corps maigri, un maillot de corps qui a été blanc, mais comme on ne sait pas laver, est devenu gris. Grande mélancolie l'en prend. Alexandre se souvient de son âge. Moi, qui jusqu'à présent me croyais jeune. C'est le début de la dégringolade. Il me reste combien? 20 ans? 30 ans? De toute façon, j'ai fait le meilleur de ma vie. Que va-t-il me tomber dessus? Le cancer? Le cœur? La sciatique? Maladie d'Alzheimer? Une tumeur au cerveau? Gaga, pipi au lit, maison de vieux. Cela lui fait mal. Finit sa toilette, s'habille. Et prend un café. Les habitudes restent. Mais ces habitudes lui font mal. Car elles sont ce qui est devenu. Cela le dégoûte. En prenant son café, il se dit « J'ai vécu que pour faire ça. » Durant toute la journée, il ne tient pas en place dans son magasin. Il fait les 100 pas en se disant « C'est pas possible, il faut qu'il m'arrive quelque chose. » Tout à coup, il se dit « On ne m'a jamais aimé. Jamais pris dans mes bras une personne. Je vais mourir sans connaître l'amour, sans jamais sentir contre moi un corps jeune et beau. » Il passe une semaine ainsi, en pensant à tout ça. À chaque fois qu'il fait un geste pour sortir de ses habitudes, il ne le peut. Changer de parcours, ne pas rentrer de suite chez lui, essayer de parler au jeune qui entre dans sa boutique, Quelque chose en l'empêche. Quelque chose lui dit non, que s'il cherche à sympathiser avec quelqu'un, cela risquerait d'être dangereux pour lui. Alors, après une journée, il panique, parce qu'il voit que le temps passé et que sa vie restera toujours comme ça. Et une grande mélancolie le prend. Un matin, en se levant, il se dit « Tant pis, je vais faire le geste, même s'il me mène à ma porte. Cela vaudra mieux que de vivre comme ça. Au moins, j'aurais connu, j'aurais fait quelque chose. » Juste au moment où il ouvre la porte de son magasin, il donne de l'argent, il se retourne et voit un adolescent d'à peu près 14 ans, mince et cheveux épais châtains, avec de magnifiques yeux bleus, habillé d'un jean très large et d'un blouson en toile gris clair. Non, j'ai pas d'argent. Mais ne dis pas ça, t'as même pas 50 francs? Non, viens. Et il entre dans la boutique. Le jeune l'a suivi. L'homme va ouvrir les volets et éclairer. Le jeune regarde. Je n'aime pas les livres. C'est à toi tout ça?
C'est ma librairie.
Alors tu as de l'argent? Donne-moi.
Pourquoi faire?
Parce que j'ai faim. Alors tu me donnes de l'argent?
Il hésite. Regarde ses yeux.
Sort son porte-monnaie, en tire un billet de 50 francs, le garçon le prend, sans dire merci, et sort de la boutique.
Pourquoi lui ai-je donné cet argent? C'est ridicule, c'est fini.
Il s'assoit sur une chaise. La porte s'est ouverte. Il lève la tête. C'est le jeune qui vient avec une barre de chocolat, un pain russe et une canette de coca. Il s'assoit à terre, en tailleur, à côté d'Alexandre. Il est surpris et se demande pourquoi il est revenu.
Tu ne dois pas avoir beaucoup de clients?
Non, pas beaucoup.
Tu devrais vendre des jeux vidéo. Il n'y a pas cours aujourd'hui.
Non, je vais partir la semaine prochaine en pension à Grenoble.
Tu n'habites pas Lyon?
Si, dans le premier. Enfin, c'est ma mère qui habite le premier.
Et toi?
Moi, je vais, je viens. Je passe des nuits blanches avec des copains. Tiens, regarde, j'ai même un téléphone. Il sort de sa poche.
Et qui a donné ça?
C'est ma grand-mère. Il se dit qu'un jeune de 14 ans qui se promène avec un téléphone, cela peut être dangereux. Il peut faire venir ses copains. Jeune a fini de manger. La poubelle est où?
Elle est derrière la porte.
Et Jeune se lève pour y déposer les déchets. Voilà un bon point pour lui. Maintenant, il va s'en aller. Revient vers lui et lui dit: bon, eh bien, je m'en vais.
Tu t'en vas?
Oui, je vais voir si je trouve mes copains. Allez, au revoir. Alexandre se sent triste. Il se lève et va vers lui. Et lui dit:
si tu as besoin d'aide, tu sais où aller, tu peux compter sur moi.
Tu sais, tu peux me faire confiance. Je ferai jamais de mal. Le jeune le regarde avec des yeux écarquillés. Bon, au revoir. Alexandre est agacé.
Pourquoi je dis tout ça? T'es complètement fou. Et si t'avais pris au mot? C'est un gosse. T'aurais pu avoir des ennuis. Faut faire attention à tes... derniers instincts. La jalousie aussi. Tu sais que la beauté te trouble et te se fait et que tu serais capable de faire n'importe quoi. Mais jusqu'à présent, tu as réussi à te dominer. Alors continue. Tu sais très bien que tu ne dois jamais franchir le pas. Ne laisse jamais personne entrer dans ta vie.
Il se calme en voyant le décor familier de la boutique.
De toute façon, je ne le reverrai plus. Ça me fera un beau souvenir et le début d'une histoire que je me raconterai.
Et il se met à rêver à ce qu'aurait pu être la vie en commun avec le garçon. Là au moins, c'est un plaisir qui ne risque rien. Il se serait occupé de lui, lui aurait acheté des vêtements, mis dans une bonne école. Il aurait eu de grandes discussions. Il serait parti en voyage. Il aurait douché. Là, ce rêve-là, c'est bon, mais c'est bon pour son lit. En se masturbant, malgré qu'il ait des désirs purs pour le jeune garçon, il peut s'empêcher de vagabonder en autre plus trouble. Mais dans les rêves, tout est permis. Il a passé une grande partie de sa journée à rêver aussi. Ainsi.
De toute façon, ça ne mène pas bien loin. Et puis personne ne sais quelle a été mes pensées. Heureusement.
Le soir, il ferme sa boutique. Là, il voit le jeune garçon venir à lui. « Tu peux me donner de l'argent? J'ai faim. » Alexandre sort de sa poche un porte-monnaie et lui donne 50 francs. Le jeune les prend et s'éloigne. Il va à la boulangerie en face. Alexandre l'attend. Il a tout oublié. Le jeune ressort avec un bâton de Mars, un petit gâteau et un cornet de coca. Il va vers Alexandre et se met en route. Tout naturellement, le jeune le suit. Alexandre est pris. Le jeune a cru à ce qu'il lui avait dit. Et puis il a de ses yeux.
Tu habites où? La bouteille. Et toi?
Chez ma mère.
Tu vas pas chez elle?
Non, j'aime pas ma mère. Je ne veux pas rentrer chez moi.
Où couches-tu alors?
Je passe la nuit, dehors, avec des copains. On fait des nuits blanches.
Quoi faire?
On cherche à voler des trucs.
C'est pas bien ça.
C'est normal, nous les jeunes n'avons pas d'argent, alors c'est normal qu'on vole. Le sexe, le vol, la drogue, c'est normal.
Non, c'est pas normal.
Il est arrivé vers chez lui. Il a un moment d'hésitation. Regarde le jeune. Il a l'air bien inoffensif, même assez gentil. Et puis ses yeux, il se dit. Tant pis. Ne se disant rien, sur le passage, il le mène vers la petite maison, le sent gêné et en même temps heureux que le jeune garçon le suive.
Ils sont entrés dans l'allée. Au deuxième, il va ouvrir la porte de son appartement. Un peu gêné, il est pris par la peur. Que va-t-il se passer?
Le jeune, avant d'entrer dans l'appartement, regarde le nom sur la porte. Alexandre Dubois ?
Oui, c'est moi. Et toi, comment ?
Moi, Ivarès.
L'homme entre. Le jeune le précède.
Il parcourt l'appartement en ouvrant les portes. Alexandre le suit. Il a l'impression qu'il fait cet inventaire par méfiance. Après avoir tout vu, il va vers Alexandre. C'est pas très grand.
Tu veux prendre une douche ?
Non, pourquoi ?
Rien, comme ça.
Parce que comme tu fais tes nuits blanches. Puis, ils vont au séjour. S'asseoir l'un en face de l'autre.
Il finit de manger et de boire.
Tu ne manges pas ?
Non, j'ai pas faim pour le moment.
Alexandre se sent moins gêné, car qu'il ne le pensait, car le jeune a une façon tellement simple de se comporter. Il se met à l'aise.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Je veux être avocat.
Oh là là, c'est long, les études. Et très ennuyeux. Tu as des tas de choses à apprendre.
Je sais, mais ça gagne bien. Je veux beaucoup d'argent pour plus tard. J'ai déjà travaillé. Et j'ai de l'argent de côté. J'ai même acheté un scooter. Et il est rouge.
C'est bien, tu me le montreras.
Le jeune hausse ses épaules et lui dit. Je ne l'ai plus. On me l'a pris, parce que j'ai été pris pendant les vacances par les flics. Un soir, je roulais, j'avais un copain avec moi, il n'y avait pas de casque. Des flics nous ont arrêtés, et ma mère m'a pris le scooter. Je ne sais pas où il est. Si quelqu'un pouvait m'aider pour me prêter de l'argent. Il a fini de manger. T'as des BD ?
Non. Dommage.
Il soupire, se lève. Le lit est à toi ?
Oui.
Je vais m'allonger.
Il se dirige vers la chambre.
Alexandre le suit. Une fois dans la chambre, Alexandre soulève le dessus de lit. Le jeune s'allonge au travers du lit. S'est couché sur le côté, face au bord du lit. Il a fermé les yeux et ne bouge plus. Alexandre hésite et décide de se coucher à côté de lui. Se met face au dos, la tête de l'autre côté, à une distance respectueuse.
Thank you.
Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La Tentation, dont c'était la première partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.